au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Aujourd'hui, dans le cadre de notre partenariat avec la Revue des Deux Mondes, j'ai le plaisir de recevoir Michel Crépu. Michel, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes rédacteur en chef de la Revue des Deux Mondes et comme chaque mois, vous venez nous présenter le dernier numéro de la revue, donc ce mois-ci, le numéro de février. Le dossier central de la Revue des Deux Mondes de ce mois se rapporte à un sujet délicat, puisqu'il s'agit de santé et qui plus est du cancer. Pourquoi avoir choisi de traiter un tel sujet?
Bien parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Hein, les chiffres sont éloquents. Et donc, il m'a paru, il nous a paru au comité de rédaction tout à fait naturel de traiter, si j'ose dire, cette question du cancer qui, au fil des années, a pris une valeur symbolique, je dirais, ou emblématique. C'est une façon de définir la condition humaine. Enfin, la maladie aujourd'hui, avec, vous savez, la fameuse phrase de Bichat qui avait beaucoup d'humour. Définissait la santé état précaire qui ne présage rien de bon. Le cancer, au fond, est un peu une sorte de définition de la condition mortelle, hein, de la condition humaine.
Et une gestion de la mortalité vue, ouais.
Voilà. Et alors, comme le dit d'ailleurs un des auteurs du dossier, c'est un peu la maladie démocratique. C'est-à-dire tout le monde est concerné, alors que dans le cas de, je sais pas moi, de l'alcoolisme ou de la syphilis, enfin qui était indexé socialement, là le cancer c'est vraiment tout le monde. Donc voilà, c'était une raison. Alors qu'en même temps l'événement de la mort dans la société moderne paraît de plus en plus difficile à symboliser. Il y a toujours un débat là, sur les comment mener des obsèques quand les gens se situent plus dans une perspective religieuse, tout ça. Bon, il y a tout un tas de questions là, qui sont d'un autre ordre. Dieu merci, on peut guérir du cancer. Il s'agit pas.
Oui,
non plus,
d'ailleurs, c'est un des témoignages parce que le dossier est composé de plusieurs articles. Un premier plus sur l'histoire du cancer. J'ai découvert que c'était une maladie qui remontait
aux Romains.
Aux Romains, exactement. Et il y a aussi un témoignage d'une femme qui a eu, on ne les compte plus.
Oui.
Donc ça prouve qu'on peut s'en sortir.
Tout à fait. Donc ne mélangeons pas non plus les choses. Et donc voilà, il s'agissait d'aborder en effet, à la fois sur un versant historique et sur un versant médical, scientifique, cette maladie.
Oui, parce que le docteur Orlan Cloué fait un point sur la situation en rappelant qu'est-ce que la définition de la maladie, une maladie de cellules, un point sur le diagnostic, les traitements,
c'est très intéressant. Tout ça est exposé de façon très simple.
Tout à fait. Et vous terminez ce dossier par une entrevue avec David Schreiber, qui est auteur d'Anticancer.
Oui. Alors là, oui,
racontez-nous un peu plus.
À vrai dire, d'ailleurs, la sortie du livre de David Schreiber a été le premier déclencheur dans le processus de projection de ce dossier. Et je me suis dit que voilà aussi quelqu'un qui, sans préjugé, je me suis dit, c'est quelqu'un qui s'adresse aussi au grand nombre, a une force d'audience, une puissance d'audience, allons voir, lisons son livre et allons voir. Et donc, ça m'intéressait d'approcher d'un peu plus près ce personnage qui, effectivement, a publié ce livre qui, au fond, représente un peu sa règle de vie. On peut le lire un peu comme
son régime de vie.
Son régime de vie. Voilà, on n'est plus dans un art de vivre, on est plutôt dans un régime de vie, d'une diététique de vie. Alors, je trouve que c'est un livre qui mérite tout à fait d'être lu. Enfin, mais parce qu'il repose quand même sur des choses assez sérieuses, hein, des études, des enquêtes, des résultats, des observations, etc. On n'est pas dans un délire où il suffirait de dire buvez du thé vert et vous serez guéri. Même s'il y a un petit côté comme ça, mais n'exagérons pas non plus. Enfin, ne caricaturons pas le propos. Et puis le personnage lui-même est intéressant aussi. Je dois dire que l'écrivain qui sommeille en moi, mais qui n'est jamais vraiment endormi, était intéressé par l'approche de ce personnage que j'ai trouvé, un peu tristounet.
Oui,
peu,
c'est ce que vous dites, un peu tristounet.
Voilà, un peu pensif, très aimable, très, très, très cordial, répondant bien aux questions, mais sans un enthousiasme, sans une...
Vous racontez une petite anecdote, en effet, sur la vision. Il enseigne à l'université de Pittsburgh.
Oui. Oui. Alors, il racontait l'expérience américaine, évidemment, est toujours intéressante, et il disait que dans son université, l'écrasante majorité, même la totalité des étudiants sont obèses. Bon. Et quand ils l'ont vu arriver, lui, svelte et européen en diable, ils ont cru qu'il avait le sida, tellement sa minceur s'apparentait pour eux à une maigreur inquiétante.
Bon, on va changer de sujet, puisque la Revue des Deux Mondes aborde aussi plein d'autres thèmes, comme d'habitude, à commencer par un article très intéressant de Renaud Girard, grand reporter au Figaro, qui fait un point sur la situation politique de l'Iran à un mois à peine des prochaines élections là-bas. Et quel contraste entre le régime et la société, c'est étonnant.
Oui, il y a un clivage, le mot est faible, mais je pense que Gérard le décrit d'une manière extrêmement révélatrice. Et en tout cas, cette façon qu'il a en effet de montrer que la société iranienne d'aujourd'hui se confond nullement avec le discours de ses dirigeants, de son dirigeant, Monsieur Ahmadinejad, montre que en effet les choses sont plus compliquées, j'allais dire pour une fois heureusement qu'elles n'en ont l'air. Même s'il ne s'agit pas du tout de se bercer d'illusions et de se rassurer à bon compte sur donc cette différence énorme, enfin ce décalage total qu'il y a entre un discours à l'usage du monde extérieur, relève d'une stratégie idéologique qu'on peut analyser, et les sentiments profonds de la société iranienne, de la jeunesse, de gens qui travaillent, qui
sont ouverts, même,
qui sont tout à fait ouverts,
qui reçoivent des livres, qui lisent énormément,
fait,
qui reçoivent tout par internet,
qui regardent d'un œil un peu ironique ce qui se passe, et donc voilà, je me garderai de tirer des conclusions optimiste ou pessimiste sur tout ça, mais en tout cas, je crois que c'est très important. Là, encore une fois, on mesure à quel point il est important de raconter les choses, comment elles se vivent, comment elles se manifestent, et sans court-circuiter ce moment-là et en venir tout de suite à des conclusions qui peuvent être tout à fait intéressantes, mais sont un peu abstraites et auxquelles il manque justement cette chair que le reportage apporte.
Oui, que Renaud Girard rend très bien, en effet. Et alors, on va quitter un peu la politique pour passer maintenant à la littérature, avec Jean-Paul Clément, qui est écrivain, historien, correspondant de l'Institut d'ailleurs, et spécialiste de Chateaubriand.
Tout à fait, c'est le directeur de la Vallée aux Loups, donc la maison qu'a occupé Chateaubriand une longue partie de sa vie. Et Jean-Paul Clément, donc, qui a publié une excellente biographie de Chateaubriand, c'est vraiment un des meilleurs connaisseurs au monde de Chateaubriand, avec d'autres, hein, il n'est pas le seul, mais depuis longtemps, il travaille et s'intéresse à l'œuvre de Chateaubriand. Donc là, il a en effet, il s'est livré à une sorte de parcours littéraire et historique entre trois écrivains, exactement 2+1, ouais. Chateaubriand, donc évidemment le grand point de départ, et puis Barrès dans un premier temps, inspiré par Chateaubriand, et Mauriac dans un deuxième temps.
Barrès faisant la passerelle finalement entre les deux. Ouais.
Barrès faisant la passerelle avec des inflexions différentes. Le catholicisme de Mauriac étant, je crois, là, apportant quelque chose de très différent de ce que Barrès, lui, a transmis, qui n'est pas dans, se situe pas exactement dans ce cadre-là. Il y a un côté chez Barrès plus païen qu'il y avait chez Mauriac. Mais en même temps, la matrice, là, on voit à quel point une œuvre peut être puissante dans son héritage, enfin dans sa puissance d'entraînement posthume, c'est le cas de le dire avec les mémoires d'Outre-Tombe. Et donc, je crois que c'est très intéressant de faire ce type de travail, parce que ça permet de comprendre en profondeur des tout un tissu de sensibilité française sur lequel on ne comprend pas, on s'expose aussi à un risque, grand risque d'abstraction quand on parle de la France.
Et au fond, mais d'ailleurs, auquel ces trois auteurs ont vraiment en commun un attachement à leur patrie et à la terre, qui est fort.
Si vous voulez, en fait, je ferais volontiers un parallèle entre ce qu'a fait Renaud Girard pour l'Iran et ce qu'a fait Clément avec Chateaubriand, Mauriac et Barrès. Au fond, c'est un peu la même chose, c'est entrer dans la chair, dans le tissu intime d'une sensibilité. Chateaubriand, a été et est encore, puisque je pense que c'est pas terminé. Il y a aujourd'hui des gens de la jeune génération qui découvrent les mémoires d'Outre-Tombe, et pour qui la lecture des mémoires d'Outre-Tombe est un événement véritablement. Donc, ce qu'a fait Clément, là, à mon avis, a un grand mérite dans le travail de transmission.
Tout à fait.
Qui est tellement important en littérature.
Ouais, et auquel donc Chateaubriand tenait certainement.
Oui.
Maintenant, nous allons peut-être parler cinéma parce que oui, parlons cinéma. On n'a pas toujours le temps.
Ouais.
Et là, je voudrais qu'on dise deux mots donc du film d'Abdelatif Kechiche, La Graine et le Mulet, puisque les avis sont pas unanimes au sein de la revue des Deux Mondes général même.
Oui. Oui, alors Catherine Soulard, donc, qui tient la chronique cinéma, et merci d'ailleurs de l'évoquer, parce que effectivement, le cinéma est toujours là tous les mois.
Est toujours là, mais on n'a pas toujours le temps de l'évoquer.
On n'a pas toujours le temps de l'évoquer. Donc, Catherine a vu le film de Kechiche et au fond ne l'a pas aimé. Bon, ce qui est parfaitement son droit, naturellement. Trouver que c'est un film
trop long,
caricatural, de parti pris, etc. Et alors, elle était, pour la petite histoire, elle a écrit un article vraiment très très critique qu'elle m'a fait lire en me disant, écoutez, Michel, peut-être que ça vaudrait le coup que vous alliez voir aussi le film. Après tout, peut-être qu'on vous donne un avis différent. Bon, alors, je suis allé voir le film et moi, j'ai énormément aimé ce film, que j'ai trouvé au contraire un film profond, prenant le temps en effet de scruter les visages, parce que c'est justement en scrutant les visages qu'on découvre aussi des choses, hein. On retrouve encore la dimension de la charnelle de ce dont on parle, et donc au lieu d'en venir tout de suite à la sociologie de la France d'aujourd'hui, attardons-nous un peu sur ces visages. Et c'est un des grands mérites de ce film, une des grandes beautés de ce film, de faire ce travail et donc de nous donner, me semble-t-il, c'est pour ça que j'ai pris la plume de critique de cinéma pour écrire un article qui fasse pendant à celui de Catherine Soulard et pour défendre cette idée de cette esthétique qui consiste à passer du temps avec les êtres, et un peu comme le chercheur d'or qui secoue son tamis là à la recherche de la pépite. Alors évidemment, il faut beaucoup de sable pour trouver la pépite, ça c'est évident. Mais je pense que oui, c'est la beauté de ce film, d'être un film de chercheur d'or.
Donc il faut aller voir ce film, même si on aime ou on n'aime pas. Hein. Nous n'avons pas évoqué votre journal littéraire, on ne va peut-être pas avoir le temps aujourd'hui, mais juste, vous avez l'air de recommander fortement la lecture d'un livre de Roberto Saviano, Dans l'Empire de la Gomorra.
Oui, L'Empire de la Camorra. Le livre s'appelle Gomorra, par allusion à la Bible, Sodome et Gomorre, et c'est une enquête extraordinaire sur donc la réalité de la Camorra, c'est-à-dire la mafia napolitaine, pour être précis, et l'auteur, qui est un jeune journaliste, talent littéraire tout à fait exceptionnel, né dans la région, enfin napolitain lui-même, s'est livré à un travail d'enquête absolument exceptionnel. On sait maintenant qu'il est d'ailleurs protégé, parce que ce qu'il dit, ce qu'il raconte est tout à fait saisissant sur la puissance incroyable. On l'a vérifié d'ailleurs récemment avec cette histoire de problème d'ordures, de ramassage ou de non-ramassage des ordures à Naples, qui est un marché qui est aux mains de la mafia, parmi d'autres marchés. Et le livre de Saviano, à mon avis, est un très grand livre. Enfin, je le recommande à la fois pour son travail d'information journalistique sur la Camorra, mais aussi et presque surtout pour sa valeur littéraire. Je crois vraiment que là, il y a une grande force, et on voit bien que le document peut tout à fait, même de plus en plus, une chose qui me frappe en ce moment, c'est ce qui relève du document, du documentaire, de l'enquête, eh bien, a une valeur littéraire parfois bien plus forte que des romans qui se prétendent tels.
Ben, merci beaucoup Michel, merci d'être venu nous présenter ce numéro. Je renvoie nos auditeurs au numéro de la revue des Deux Mondes de février, La Condition Cancer. Il est disponible en kiosque, en librairie ou sur le site internet revuedesdeuxmondes.fr. Je vous dis au revoir, restez à l'écoute de Canal Académie et à très bientôt.